Thierry Lhermitte, ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM. Alors, vous avez effectué votre dernière visite de laboratoire en compagnie de Lynn Renaud, qui, nous le savons tous, est très investi dans la recherche. Avec elle, vous êtes allé à la rencontre du professeur Guillaume Cano, qui est néphrologue à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, et il mène ses travaux dans une unité de recherche de l'Institut Necker. Il vous a raconté une aventure médicale extraordinaire. Il travaille sur une maladie déformante rare qui s'appelle le syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse. De quoi s'agit-il, Thierry ?
Eh bien, ce sont des patients qui présentent une croissance exagérée de certaines parties du corps. Ça peut toucher n'importe quel tissu, les vaisseaux, l'os, le muscle. C'est dû à une mutation génétique qui n'est pas héritée des parents, mais qui apparaît durant le développement embryonnaire. 60% des patients ont un gène muté qui s'appelle PIK3CA. Une trentaine d'autres gènes mutés ont été découverts aujourd'hui, et toutes ces mutations conduisent certaines cellules à grossir anormalement et à se multiplier trop vite, ce qui aboutit à des tumeurs bénignes. Ce ne sont pas des cancers, car elles ne disséminent pas. À la naissance, ces atteintes peuvent être très diverses. Ça peut être juste un doigt qui devient très gros, ce qui est déjà très handicapant. Mais certaines tumeurs internes peuvent comprimer les organes et parfois engager le pronostic vital. Le cerveau aussi peut être atteint, ou les vaisseaux, ce qui peut entraîner des saignements permanents. Et la forme la plus sévère, c'est le syndrome de Clove, avec des tumeurs qui touchent tous les tissus. On va y revenir.
Donc c'est une maladie qui n'est pas facile à identifier du fait de ses symptômes très divers.
Exactement. Beaucoup de gens sont en errance diagnostique, parfois soignés par erreur pour d'autres maladies. Et jusqu'à récemment, on ne recensait qu'une cinquantaine de malades en France, mais on sait maintenant qu'ils sont plus nombreux. Alors quand on suspecte la maladie, on recherche la mutation génétique sur une biopsie du tissu atteint.
Existe-t-il des traitements ?
Eh bien, jusqu'à présent, on prenait en charge les symptômes. La chirurgie, quand elle est possible, pour réduire les masses. Certains patients subissent des centaines d'opérations. On donne aussi des antalgiques, souvent de la morphine à haute dose, car tous les patients ont d'énormes douleurs. Et en plus, tous présentent une importante fatigue. Mais aujourd'hui, pour les cas les plus sévères, il existe un nouveau traitement. Et c'est justement l'histoire de sa découverte par le professeur Cano, dont je voulais vous parler.
Allez, racontez-nous ça.
Elle commence en 2015, au moment où le jeune néphrologue monte son équipe de recherche sur la maladie chronique du rein. Alors, quel rapport avec le syndrome d'hypercroissance, me direz-vous ? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, il voit en consultation un jeune homme de 25 ans, Emmanuel, adressé pour une insuffisance rénale. Et il est atteint de la forme sévère de la maladie, le syndrome de Clove. Il a des masses sur tout le corps et a subi des dizaines d'interventions chirurgicales depuis son enfance, et il est paraplégique depuis 2007. Après un bilan global, le coup près tombe. L'état trop altéré d'Emmanuel, qui a aussi une importante insuffisance cardiaque, ne permet pas de tenter quoi que ce soit.
C'est terrible, mais Guillaume Cano ne jette pas l'éponge.
Non, parce qu'il est particulièrement touché par ce jeune homme, brillant ingénieur aéronautique qui lutte contre sa maladie. Emmanuel est porteur d'une mutation dans le gène PIK3CA. En épluchant les recherches sur ce gène, Guillaume Cano découvre qu'il est aussi très souvent muté dans des cancers et contribue à la prolifération des cellules malignes. Alors avec le cancer, on n'est plus face à une maladie rare. Il se dit alors qu'il existe peut-être une molécule spécifique capable de contrer cette activation anormale du gène. Et en effet, des entreprises pharmaceutiques s'intéressaient au sujet et justement Novartis était en train de tester une molécule inhibant de manière spécifique la protéine produite par PIK3CA. L'entreprise terminait une première phase d'essai clinique chez les femmes atteintes de cancer du sein et porteuses de la mutation. Il s'agissait d'une phase très précoce puisque l'objectif de l'essai, c'était simplement d'évaluer la dose maximale tolérée.
Et donc le médecin contacte l'entreprise ?
Oui, il y a de multiples discussions avec Novartis, puis en France avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et en décembre 2015, il obtient l'autorisation pour une utilisation compassionnelle de cette nouvelle molécule qui n'a pas encore fait ses preuves comme médicament.
Et le traitement commence ?
Oui, en janvier 2016, Emmanuel prend un comprimé par repas, avec la dose la plus faible de l'essai clinique. En quelques jours, il commence déjà à ressentir des effets. Et cela se confirme au fil des semaines. Les œdèmes se résorbent, la fatigue reflue, et surtout les masses anormales diminuent de volume. Et le plus incroyable, c'est que Guillaume Cano pensait au mieux arrêter la progression de la maladie. Mais en fait, elle régresse, et le patient n'a pas d'effet secondaire. Depuis, Emmanuel a perdu 30 kilos, il n'a plus de douleur, a repris une activité professionnelle. Il a toujours des malformations osseuses, notamment apparues au fur et à mesure de sa croissance, mais elles ne l'empêchent plus de vivre.
Donc il est guéri ?
Non, parce que la mutation est toujours présente, on ne peut pas arrêter le traitement, sinon la maladie repart.
Et quelle est la suite de cette histoire incroyable ?
Dans la foulée, Guillaume Cano a ensuite traité 19 enfants et adolescents de l'hôpital Necker. Un autre exemple fantastique. En 2017, la petite Ashanti, 10 ans, arrive en fauteuil dans le service. Elle est incontinente et paraplégique. Une masse grossit et lui comprime la moelle épinière. Deux semaines après le début du traitement, elle appelle sa maman. Elle dit « Maman, je bouge les orteils ». La maman téléphone à son pédiatre qui lui répond « Ça, madame, c'est impossible ». Le traitement se poursuit, la masse diminue et un jour, Ashanti se lève de son fauteuil au milieu du service. Tout le monde a pleuré, y compris Guillaume Canot.
Et en Europe.
Et moi aussi.
Et en Europe.
Depuis, Ashanti danse et a repris une vie normale. Ses résultats spectaculaires ont fait connaître le laboratoire dans le monde entier. Ensuite, tout s'enchaîne. Un essai mené aux États-Unis avec 57 patients pour qui les résultats sont toujours positifs. Et dans la foulée, une commercialisation de la molécule dans ce pays. Et en Europe,
En
Europe, une étude est encore en cours car l'Agence européenne du médicament demande un suivi à long terme, à plus long terme. Les premiers résultats seront connus l'année prochaine. Et en attendant, le professeur Canot ainsi que d'autres centres en France proposent ce traitement aux patients les plus sévèrement atteints avec une autorisation spéciale. Et en parallèle, avec son équipe, il poursuit ses recherches pour comprendre les mécanismes de la maladie. Notamment avec Gabriel Morin, un jeune médecin soutenu pour sa thèse de science par la Fondation pour la Recherche Médicale. Et on leur souhaite de poursuivre avec autant de succès pour le bénéfice des malades.
Et voilà une extraordinaire recherche soutenue par la Fondation pour la Recherche Médicale. Vos dons servent à quelque chose, la preuve.
Voilà.
Comment aider la FRM, Thierry Lhermitte ?
Sur frm.org en faisant un don en ligne ou en donnant 10 euros sur votre facture téléphonique en envoyant le message don DON au 92 300.
DON au 92 300. Merci beaucoup Thierry Lhermitte et on peut lire votre portrait ce matin dans Libération.